Au bout de ce couloir se trouve une porte de bois. Ils démolissent la serrure et ouvrent la porte. Qui aboutit à un autre couloir. Ils suivent le couloir. Elle aboutit à une autre porte. Il l'ouvre. Et se trouve en bas des escaliers. Il monte les escaliers. Ouvre encore une porte. Ils entrent. C'est l'intérieur de la chapelle. Il n'y a encore personne. Les hommes se cachent. Galien se met au milieu, un peu gêné. Tout à coup, on entend les cloches. Des cris d'allégresse. Une voiture qui arrive. Qui s'est arrêtée. La portière de la voiture qui s'est ouverte. La porte de la chapelle qui s'ouvre. Apparaît le pape. Il a fermé derrière lui la porte de la chapelle. La foule à l'extérieur se tait par respect. Galien ne bouge pas. Le pape s'avance vers lui. Il est vers la nef. Le pape est vers lui, lui tend les bras. Mon ami. Se penche derrière lui un homme qui lui planque une piqûre au cou. Le pape fait la grimace et tombe la tête la première. Galien se retire. Il va s'asseoir plus loin. Vite, le médecin retourne le pape. Les infirmières amène le matériel. Qui sont dans des mallettes. Le sang, bistouri, burin, etc., etc. Et une boîte en fer pour déposer le cerveau. L'on rase la tête du pape. L'on coupe la chair du crâne pour la lui enlever. On enlève la calotte crânière en y faisant un trou. Puis, délicatement, très délicatement, on enlève le cerveau en le déconnectant proprement et sans rien abîmer les vaisseaux et les nerfs. Une fois que le cerveau est sorti, on le nettoie, on le branche avec du sang et de l'oxygène et ferme la boîte qui a des trous pour laisser passer les tuyaux de branchement. Du branchement pour le sang et pour l'oxygène. Une infirmière tient la boîte en métal, une autre le sang et l'autre l'oxygène. Le médecin dit « Vite, à l'aéroport !» Et ils vont sortir de la chapelle, Galien les suit et refont le même parcours jusqu'à l'aéroport. Là, à l'aéroport, il y aura un avion privé qui les attend. On a donné aux employés et dirigeants une forte somme pour qu'ils ne disent rien. Ensuite, dans l'avion, direction Orly. Et d'Orly, il est amené au laboratoire Riquin. Il va être bombardé de rayons laser. On va lui mettre de l'oxygène et du sang et relier à un ordinateur. L'ordinateur pour le faire oublier Donetti et lui rendre en entier tout Guillaume. Son caractère, ce qu'il aime, ce qu'il a vécu, etc., etc. Galien est très ému. Une fois que tout a été branché et qu'il a vu le branchement, il dit à Riquin, je vous remercie. Réussissez à me rendre Guillaume. Je vous pardonne pour tout ce que vous avez fait. Et il s'en est retourné chez lui. Chez lui, il va dans sa chambre. prend un somnifère qui est sur la table de nuit. Et se couche. Ça a été très dur pour lui, cette opération. Tout ce sang, ce crime, ce cerveau qui battait et qui est celui de son Guillaume. Ce temps, on attend toujours que le pape sorte de la chapelle. L'on attend. Les gens sont de plus en plus nombreux et prient à genoux. La nuit vient. L'on vient avec des cierges. L'on fait des processions. L'on prie, on chante. Le pape est un saint. Les heures passent. Et pas de pape qui sort de la chapelle. Le lendemain matin, c'est la même chose. À midi, le Vatican commence à s'inquiéter. Le secrétaire dit « Il faudra aller voir. Il a peut-être eu un malaise, malgré qu'il ait dit qu'il ne fallait pas le déranger. » Alors, le secrétaire décide d'entrer dans la chapelle. Il y a toujours autant de foule, de gens qui prient, qui chantent. Le secrétaire est sorti de voiture et décide d'entrer dans la chapelle. Là, il voit une chose horrible. Au milieu d'une mare de sang, le pape allongé à terre, le crâne ouvert, de la chair de partout, un véritable carnage. Il manque de s'évanouir. Il sort de la chapelle. Blanc, les jambes qu'il tient à peine. Il a tout juste le temps d'aller vers son chauffeur et lui dire « C'est passé une chose horrible. Le pape a été sauvagement déchiqueté, vidé. Allez prévenir le Vatican. Je reste là. » Il reste devant la porte pour éviter que les gens essayent d'entrer dans la chapelle. Pendant ce temps, le chauffeur a prévenu ses supérieurs qui en préviennent d'autres. Une demi-heure plus tard, arrive vers la chapelle. Les voitures du Vatican. Les cars de police, ambulances, etc. La police écarte la foule qui ne comprend pas. Les gens du Vatican entrent en premier dans la chapelle. Puis, c'est la police et les brancardiers. L'on fait des photographies, l'on prend des empreintes, l'on dépose le corps dans une bâche en plastique fermée avec une fermeture à glissière, que l'on met sur un brancard. Et l'on sort le corps sans rien dire. La foule surprise ne sait quoi penser. L'on crie « C'est le pape qui est tombé malade. Le pauvre, il a dû trop prier et jeûner. C'est un vrai saint. » L'on met les scellés à la porte de la chapelle. Les policiers gardent la porte. On en met tout autour de la chapelle. Puis on fait évacuer tout le monde. Les gens pensent que c'est parce que l'on veut transformer ce lieu en lieu saint. La police ne comprend pas cette horreur. Qui a pu faire ça? Alors on se souvient de ces catacombes et l'on voit que les entrées ont été violées. C'est par ici qu'ils ont dû passer. Mais pourquoi ce crime? Thank you. cherche à savoir ce que l'on pourrait dire aux gens. Le Vatican, la police, le gouvernement romain. Eux, les gens pensent qu'il y a eu un malaise. Il faudra bien leur annoncer la mort. Malheureusement, pendant qu'ils réfléchissent, un garde du Vatican raconte tout aux journalistes. Les journalistes le disent, et le monde entier sait que le pape a été sauvagement tué et qu'on lui a volé son cerveau. Que c'était une véritable boucherie, et ceci dans une chapelle. C'est la consternation mondiale. La foule réclame vengeance et l'on crie à la sainteté. En Italie, très vite l'on parle de la mafia et du parti communiste. Et d'autres de plus en plus nombreuses disent que c'est un miracle. Sûrement que le cerveau a été pris par des anges pour le mener au paradis, car ce pape était un saint, que de toute façon, c'est la seule chose possible. Alors, l'on refait des processions vers la chapelle, on y dépose des fleurs, des cierges, on y chante, on y prie. Une petite fille qui était paralysée des deux jambes a retrouvé ses jambes, le miracle. Les autorités laissent faire, ça les arrange, le Vatican aussi. Il vaut mieux que les gens ne sachent jamais ce qui s'est passé. Et puis, la piste n'aboutit à rien. Pourquoi t'en fais une chose pareille ? Si ce n'est qu'un fou sadique. On ne pense même pas à faire une enquête aux aéroports. Et puis le pape a choisi sa solution. C'est peut-être la meilleure. Il sera un pape miraculeux. Un pape miraculeux de plus. Que demander mieux ? C'est bon pour l'Église et en plus un lieu de culte supplémentaire. Vite, avant que les gens ne pensent à autre chose, on ne sait jamais. Une Diana peut avoir un accident et le pape peut passer aux oubliettes. Pendant que c'est encore chaud, donc, on embaume le pape. Et on lui prépare des funérailles comme au pape n'a eu. Car un pape qui fait des miracles, qui a déjà eu son cerveau au paradis de son vivant, c'est pas courant, même chez les papes. Donc, c'est pire que pour la Coupe du Monde. Des milliards de personnes vont assister à l'enterrement à la télévision. Des millions de gens vont venir à Rome. Trains, avions spéciaux. Hôtel complet, tout est complet, les affaires marchent. L'on édite sa biographie édifiante, des photographies de lui. L'on vend ses habits, affaires, même des cheveux et de la barbe. Tout est bon pour les affaires. Et si on pouvait, on le découperait et vendrait petit par petits bouts. Mais des petits malins, des policiers, infirmières qui étaient là, à la découverte du corps, ont trempé dans leur mouchoir le sang et le revendent comme relique. Les affaires vont bon train. La chapelle est ouverte et il faut payer pour y rentrer. Il y a foule. Les gens défilent devant l'endroit où il a été tué. Un cierge à la main. La police montée. La foule. L'enterrement a lieu. Il y a tous les chefs d'État, cardinaux, représentants d'autres religions, etc., etc. C'est beau, c'est magnifique. Jamais on n'avait vu autant de monde, de beau monde. Galien du remords et se dit que ce n'est pas la faute à ce pauvre pape si on lui a mis le cerveau de son ami. Pour cela, on l'a tué sauvagement. Idéal en fort. Je vous reprocherai toujours ce crime. C'est de votre faute tout ça. Vous vous rendez compte, la terre entière a tremblé par votre faute? Et vous m'avez rendu responsable de cette horreur. L'enfant lui dit, il le fallait malheureusement. Les choses vont s'arranger. Et le pauvre homme que vous avez tué, il revivra lui? L'enfant lui dit, nous sommes peu de choses. Ce n'est qu'un homme, il y en a tant. Et puis, son cerveau revivra dans l'autre. Galien lui dit, c'est terrible ce que vous dites là.
Non, c'est la vie.
Très vite, l'on remet d'aplomb le cardinal Fetti pour qu'il puisse retourner à Rome pour les élections. Le cerveau marche bien, le corps se remet. On le réveille petit à petit. Il fait faire des mouvements, des réflexes. On lui donne à manger petit à petit. Puis, on lui fait prendre conscience. On lui pose des questions. On lui parle jour et nuit. Il y a une personne près de lui. Puis, lorsqu'il va mieux, on le met dans une maison de repos avec pour des soins intensifs, culture physique et excitation du cerveau avec exercice mental. Cela va bien. Le cerveau a retrouvé sa mémoire. On a dit au cardinal qu'il avait eu une attaque cardiaque. Deux mois plus tard, il est ramené à Rome avec les soins à faire. Dès son retour, il est entouré, courtisé. Tout le monde pense qu'il va devenir le nouveau pape. Les chantages marchent à fond. Il ne comprend pas cet engouement qu'on a pour lui. Pendant ce temps, on a mis le cerveau de Guillaume dans le corps de Guillaume. Sang, oxygène, rayons laser. Ça semble aller à peu près. Galien est allé le voir. Le crâne rasé, la cicatrice, des tuyaux de partout, cela lui a fait un choc. Ricain lui dit : tout va bien se passer. Le cerveau a bien retrouvé sa mémoire et a oublié son ancien locataire. Le corps reprend ses fonctions. Il était bien connecté avec le cerveau. Maintenant, il faut attendre que tout se cicatrise et que le corps et le cerveau redeviennent indivisibles. La peau se revivifie à cause du sang et de l'air. On le masse avec de la pommade assouplissante et lui refaisons les muscles en lui faisant des mouvements. La peau s'assouplit et se durcit. On a remis de l'ADN et de l'immunitaire et plus de vitamines. Les cheveux repousseront. Les yeux ont été changés, mais avec des yeux de la même couleur. Pour le moment, il est dans une chambre stérile. Pendant ce temps, on fait la cour à Féti et on se réunit pour élire le nouveau pape. Les Italiens et presque tous les autres sont pour Féti. Le pape est élu et se fait appeler Luc. Il déclare qu'il continue l'œuvre de son prédécesseur, saint et martyr. Les Américains sont furieux et stupéfaits. Ils disent que le pape est encore du côté des Français. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la deuxième époque de Violence et Crépuscule, Imami, production, mise en scène, Junier Jean-Pierre.